Bienvenue sur le podcast de Parole de Plume, le podcast de conseils et motivation pour les auteurs et acteurs du livre. Je m'appelle Marie, je suis rédactrice web, chargée de communication et autrice. Via Parole de Plume, je souhaite lier ma passion pour l'écriture avec mes compétences en communication. Depuis plus d'un an déjà, je gère le compte Instagram Parole de Plume, où chaque semaine, je délivre mes conseils en écriture, communication et où je partage également l'avancée de mes projets d'écriture. J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis avec Marion Lecomte, une autrice qui va nous présenter son parcours et malheureusement ses quelques déboires avec sa maison d'édition. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marion, je vais te laisser la parole et déjà merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour, bonjour. Bon, sans surprise, donc je m'appelle Marion, Marion Lecomte plus précisément. D'un point de vue autrice, j'écris depuis longtemps, mais on va dire que mon parcours éditorial a commencé en 2021 avec mon premier roman publié, non premier roman écrit, mais premier roman publié. Et depuis, c'est un petit peu les montagnes russes et je trouve ça intéressant aujourd'hui avec le recul que je peux avoir, d'évoquer le sujet, d'informer, et voilà, si ça peut... c'est toujours intéressant de partager ces expériences, surtout quand
Absolument.
Elles sont un petit peu laborieuses comme celle-ci, voilà.
Absolument, on est donc là pour ça, et donc je te remercie pour cette petite présentation. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu plus de ton parcours dans l'écriture, voilà comment ça a commencé, et puis qu'est-ce qui t'a amené tout doucement vers l'édition ?
Bon, ça fait un peu bateau, mais j'ai envie de dire que j'écris depuis toujours. Seulement, ça a pris vraiment la forme d'un roman, je dirais depuis 2020, où j'ai terminé mon premier roman après 10 ans d'acharnement, à tout le temps réécrire les premiers chapitres parce qu'on n'est jamais satisfait et finalement l'histoire n'avance jamais.
J'ai
et en 2020... Oui, je pense que ça, c'est connu.
Je pense qu'on on a presque tous eu cette petite phase. Enfin, cette petite phase. On ne va pas qualifier 10 ans de petite phase, mais
ouais,
on l'a connu, oui.
C'est pas 10 ans plein, mais tu sais, c'est vraiment... Vu que tu l'oublies pendant un an et quand tu reviens dessus, tu te rends compte que tu as évolué, ton style aussi.
Ouais.
Du coup, ça n'en finit jamais. Donc, enfin, en 2020, j'ai eu terminé ce premier roman-là qui, lui, n'a jamais été publié. Et après ça, une fois que la machine était lancée, que j'ai appris de mes erreurs, donc de ces 10 dernières années qui étaient un petit peu en dents de scie, j'ai pu me lancer dans mon premier roman où j'avais l'idée de publier.
D'accord.
Dès le début, j'avais l'idée de publier ce roman-ci qui s'appelle donc « La cour des ombres ». Et à la base, j'avais prévu de le publier sous un format crowdfunding.
D'accord.
Par exemple, Ulule.
Donc en auto-édition.
C'était l'idée.
D'accord.
Notamment parce que je vous parlerai un petit peu plus du projet, mais comme il a une empreinte très historique, j'ai été aidée d'une conseillère en histoire que j'avais envie de rémunérer. Donc pour moi, c'était important...
D'accord.
De pouvoir aider tout le monde à avoir à gagner quelques sous-sous sur ce travail qui était assez conséquent. Je voulais faire ça bien, donc l'auto-édition me le permettait. Et finalement, les choses sont passées totalement différemment parce que j'ai été approchée par une maison d'édition qui était intéressée par la Cour des Ombres, grâce à la communication que je faisais déjà dessus parce que je voulais lancer un crowdfunding.
D'accord.
Donc c'est un peu comme ça que les choses ont démarré, et depuis j'ai déjà au total 5 textes terminés, donc on va dire que j'essaye de pas m'arrêter.
Effectivement.
Mais ça rend pas mon parcours plus facile ou plus heureux pour autant.
D'accord. Bon, en tout cas, je te souhaite que ça le devienne avec ces prochains textes. Et puis tout doucement, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast et dans les points un peu sensibles. Et puis on reviendra sur ces textes-là à la fin si tu as envie de nous en parler.
Ouais, avec plaisir.
Donc comme tu nous as dit, tu as écrit La Cour des Ombres, donc
ça.
Effectivement un roman qui a connu moult rebondissements de ce que j'ai compris. Est-ce que juste avant de... qu'on parle de tes déboires avec l'édition, est-ce que tu veux bien nous présenter
ce roman parce qu'il a un thème original de ce que j'ai lu dans le résumé. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez sympa et original. Et aussi, bah, nous dire du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré ce texte ?
Pour vous pitcher en une phrase, La Cour des Ombres, c'est l'histoire des dieux de l'Olympe qui prennent le pouvoir à la cour de Versailles. Donc là où tu dis que c'est assez original, je pense que ça l'est, ça fait bizarre parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense que ça l'est parce qu'on est vraiment sur une uchronie fantastique que moi je ne connais pas de mélange entre l'histoire de France et la mythologie grecque. Littéralement, c'est... Donc voilà, c'est vraiment une uchronie fantastique où, à partir de l'époque de Louis XIV, le fameux roi soleil, le roi soleil s'étant lui-même autoproclamé roi soleil par rapport au dieu Apollon, alors certes romain, mais moi j'ai ramené ça à la sauce grecque, eh bien imaginons que cette adoration qu'il avait pour Apollon ait été si forte que ça ait réveillé Apollon lui-même. Et de là, effet boule de neige, toutes les divinités de l'Olympe se retrouvent attirées par Versailles et par... en fait, à l'époque, Versailles était très, très, très intriguée par l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine. C'est bien pour ça qu'à Versailles, on a, par exemple, la chambre d'Arès, enfin, on a des représentations de Diane, etc. La mythologie est très présente à Versailles. Et donc, voilà, imaginons que tout ça ait attiré la curiosité des dieux de l'Olympe qui aient voulu... voir un petit peu ce qui se passait chez les humains en France.
Très bien. Très bon pitch. Enfin, j'aime beaucoup.
Bon, le pitch, c'était la première phrase. Sinon, ça serait un peu trop long pour un pitch, mais...
Oui, au moins, on situe bien les éléments. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour partir sur un tel thème ? Est-ce que tu as, toi, une passion de base et pour Versailles et pour la mythologie ? Parce que c'est vrai que... Alors, j'aurais jamais eu cette idée. Enfin, je ne pense pas. Comme tu l'as dit, on n'a pas déjà vu de texte comme ça et moi j'ai pas forcément de texte similaire qui me vient à l'esprit. Donc qu'est-ce qui t'a inspiré toi de d'écrire ça ?
Tout à l'heure je parlais du fait que j'avais travaillé avec une conseillère en histoire.
Ouais.
C'est un petit peu parti de là, c'est-à-dire que à la base, donc moi je voulais écrire et j'avais déjà écrit. À la base, j'étais déjà passionnée de mythologie et d'histoire, mais ce qui a vraiment entremêlé les deux, c'est lorsque j'ai rencontré cette fameuse personne, Dionysia, si tu passes par là, je te salue, qui est d'origine grecque, donc déjà profondément liée à la mythologie grecque, mais en plus de ça, qui a suivi un cursus académique autour d'études d'histoire. Qui s'est spécialisée dans l'histoire du XVIIIe siècle.
Okay.
Et de fil en aiguille, à la base, on ne se parlait pas du tout, on s'est rapprochés, on a commencé à développer une amitié bien avant de commencer à parler de ce roman, mais à force de se connaître, à force de partager nos projets en commun et nos passions, il y a eu un jour une blague autour du fait que... à quoi ressemblerait la robe de Perséphone si elle se rendait à un bal costumé à Versailles ?
D'accord.
Et à force d'imaginer Perséphone, on s'est dit, bon, et comment serait vêtu son mari ? Mais comment seraient vêtus les autres ? Et à force d'imaginer tout un bal de divinités olympiennes et non olympiennes à Versailles, de fil en aiguille, c'est un peu parti de
on
là.
On a écrit un roman.
Voilà.
Ok, non, mais c'est fun, j'aime beaucoup comme anecdote, c'est très sympa. C'est très très sympa, j'aime beaucoup. D'accord, bah écoute... Bon début. Donc, très bon début. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours éditorial de ce roman ? Parce que tu m'as dit que, au final, toi, tu partais d'abord pour faire de l'AE, en plus. Et au final, tu t'es retrouvée en maison d'édition. Donc, quelles ont été les étapes ?
Donc, la première étape, c'était, on visait Ulule. Toutes les deux. Donc c'est moi qui écrivais le livre, mais j'avais une relecture, on appelle ça souvent une alpha lecture faite par Dionysia. Et donc comme je voulais qu'on puisse toutes les deux jouir de cette publication, l'autopublication me paraissait la plus à même de répondre à cela. Donc, je voulais parler de tir sur un Ulule et qu'on puisse se rémunérer toutes les deux. Le projet avait l'air de plaire. Moi, à l'époque, j'étais en auto-entrepreneuriat sur mon entreprise artisanale et créative qui était déjà liée aux mythologies parce que la mythologie, c'est toute ma vie. Et donc, comme j'ai commencé sur mes réseaux sociaux qui étaient liés à mon entreprise artistique à parler de ce roman et que je voyais qu'il y avait quand même un certain engouement, on était parti donc sur le Ulule, on commençait à parler des contreparties, on commençait à s'organiser sur tout ça. Et finalement, de cette communication que je faisais déjà sur mes réseaux, qui n'étaient pas des réseaux liés à mon travail d'autrice, mais donc vraiment d'illustratrice, etc., eh bien, en fait, ça a attiré le regard d'une éditrice.
D'accord.
Chose à laquelle on ne s'était pas du tout préparé. Forcément, moi, j'en étais quand même assez ravie parce que, mine de rien, je pense qu'on est toujours ravis d'attirer l'œil de professionnels de l'édition. Donc, elle m'a contactée, elle a demandé à voir les premiers chapitres. Moi, je les avais déjà écrits, donc j'étais prête. Elle m'a demandé ensuite un synopsis du jour au lendemain, à lui rendre le lendemain 9h. Elle me demande ça à 18h. Je me dis, c'est parti, on va faire un synopsis. Okay. Donc ça s'est enchaîné assez vite et j'en ai parlé forcément à la personne qui était mon alpha lectrice et je lui ai dit, écoute, si j'envisage cette publication avec la maison d'édition qui vient de m'approcher, je te rémunérerai de mon côté. Et à ce moment-là, on va dire d'auto-entrepreneur à auto-entrepreneur. Et ensuite, moi, je continuais mon chemin avec la maison d'édition.
D'accord. Par contre, de voir que tu avais une maison d'édition qui était intéressée par le texte, donc du coup, y avait un potentiel édito qui était remarquable, ça ne t'a pas, par contre, donné envie, toi, de tenter des soumissions en attendant... C'était la suite de l'histoire.
J'aurais dû.
Oui.
Avec le recul, évidemment, j'aurais dû, mais à ce moment-là, je pense que c'était vraiment les mois de la première édition. On est novice. À la base, on voulait faire de l'auto-édition et on avait, enfin, moi, j'avais un petit peu peur quand même de tout le travail que ça allait demander. C'est vrai que d'avoir une maison d'édition qui se montre intéressée et qui est prête à faire le travail avec moi, qui, moi, me faisait peur. C'était quand même une première publication. Je dis pas.
Bien
que
sûr, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. J'aurais jamais fait. En plus, déjà, vous envisagez de faire de l'auto-édition en premier. Moi, ça m'a pas effleuré l'esprit. Hein. Donc vraiment, je comprends.
Je mets pas de côté de publier un jour en auto-édition. Mais c'est vrai que pour un premier, ça me faisait un petit peu peur parce que c'est beaucoup de travail l'auto-édition. Donc c'est vrai que j'ai un peu sauté sur l'occasion de la maison d'édition qui venait vers moi. Avec le recul, évidemment, je pense que j'aurais dû prendre plus le temps. Après, il y avait aussi l'idée que, comme j'étais en train de l'écrire, le roman, il n'était pas terminé.
D'accord.
S'il avait été terminé à ce moment-là, je l'aurais envoyé certainement à d'autres maisons d'édition en me disant « Ah bah voilà, les gens ont un intérêt pour lui. Peut-être qu'il n'y a pas que cette maison d'édition qui pourrait me répondre positivement. » Mais comme il était en cours d'écriture, je ne me voyais pas l'envoyer à quelqu'un d'autre et eux étaient prêts à m'attendre en me disant « On a adoré le pitch, les premiers chapitres sont béton, on te donne une date butoir et t'as un an pour écrire le roman et on en rediscute et on fait ensemble les corrections, etc. » Pour moi, c'était quand même assez... Si je devais attendre de terminer le roman, il aurait fallu attendre un an de plus pour commencer à soumettre et on sait que dans l'édition, tout est lent.
Oui.
J'aurais pas été publiée encore très longtemps après, et comme j'étais, encore une fois, c'était ma première publication, j'étais hypée par l'idée, je me suis un peu emballée, quoi.
Oui, ok.
Globalement.
Ok, moi je comprends, après on aurait, enfin on est beaucoup, alors, pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance avec les maisons d'édition avec lesquelles je travaille et comment ça se passe, mais c'est vrai que j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être tombée sur ces maisons d'édition-là, d'avoir été prise dans ces maisons d'édition-là, parce que c'est vrai que sur des primo-auteurs ou des premières publications, on entend malheureusement, oui, effectivement, des histoires malheureuses à droite à gauche. Même moi, j'ai failli... Alors, je pense que ça se serait pas mal fini, mais j'aurais pas été 100% satisfaite, parce que j'avais été à un moment aussi en contact avec une autre ME pour Héritier du Solstice, justement. Et... heureusement, quand j'ai eu l'appel avec eux, il y a eu plein d'alarmes qui se sont allumées dans ma tête et Alors, c'était facile à dire parce que Bookmark m'avait déjà répondu. Donc, si tu veux, sur la même semaine, j'avais eu les deux. Donc, c'était assez facile de pouvoir dire non à l'une.
Ça aide.
Forcément, ça aide énormément. Mais c'est vrai que pour le coup, plein d'alarmes, c'était un peu allumé dans ma tête. Et si au final, j'avais jamais eu le mail de Bookmark et que j'avais signé avec l'autre ME, bah, va savoir ce qui se serait passé. Donc, c'est vrai que c'est assez, au final, malheureux d'entendre... régulièrement, je ne sais pas si c'est le terme, mais régulièrement, des histoires où, parce que c'est le premier contrat et que forcément, on a envie de réaliser un rêve, on saute à pieds joints dedans, même si des fois, on a les signaux d'alarme, on se dit oui, non, je ne sais pas trop. Et après, on se retrouve malheureusement avec des témoignages pas forcément encourageants.
Donc, ce qui, je pense, est compliqué aussi, c'est que déjà, on a l'enthousiasme du premier contrat, évidemment, et ça c'est humain, hein, je pense que ça oui. se comprend. Mais en plus de ça, y a une telle image qu'on se trimballe depuis longtemps que de toute façon, en tant qu'auteur ou autrice, tu seras maltraité, tu seras mal payé, on m'a proposé mon contrat, le pourcentage de rémunération, là je parle de rémunération, me semblait faible. Mais, encore une fois, on entend toujours parler que les artistes, de toute façon, ils gagnent pas d'argent. On peut pas vivre de l'écriture, on peut pas ceci, cela. Enfin, on est tellement habitués dans cette espèce de... On est un peu dans un miasme de pessimisme, et surtout, on regarde les auteurs et les autrices des États-Unis, de anglophones, et on se dit, eux, c'est incroyable ce qu'ils font, mais nous, en France, on nous donne un contrat, faut qu'on soit contents.
Oui.
Que mélanger ça avec l'enthousiasme du premier contrat, surtout que moi en plus, vu que je me tournais à la base vers l'auto-édition et que ce soit la maison d'édition qui soit venue vers moi, forcément ça a un peu nourri ma fierté.
Mais bien sûr.
L'un dans l'autre, je comprends même avec du recul et même si aujourd'hui je me dis que c'était pas une expérience très réjouissante, je comprends que ça se soit passé comme ça.
Je comprends totalement ta réaction de l'époque. Ça, en soi, je te dis, je pense que si on était venu me chercher, j'aurais totalement pu avoir la même. Enfin, je veux dire, forcément, on est encore jeune, c'est un premier livre, on voit une porte qui s'ouvre. On voit des gens qui, en plus, quand on te démarche, enfin, c'est sûr que, t'as envie d'y croire. Et puis, même si des fois tu vois, il y a quelque chose qui te fait tiquer, en fait, tu dis non, mais ça va bien se passer parce que tu as envie d'y croire. Donc, c'est aussi totalement normal.
On a envie d'y croire.
Et moi, j'estime que t'as pas à te blâmer, pour avoir accepté à l'époque parce que je pense que beaucoup, beaucoup auraient fait pareil.
Je me blâme pas. Non, en vrai, je me blâme pas. Je suis en colère après la maison d'édition, mais. Mais c'est vrai que tout ce retour d'expérience, si ça peut aider les personnes qui écoutent, qui sont en attente du premier contrat, même si ça peut arriver, je pense, à des personnes qui ont déjà signé et qui ont un peu plus d'expérience, mais si en plus vous êtes sans expérience et que vous attendez ce premier contrat depuis des années, et on sait que c'est souvent le cas, parce que même si sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on a tendance à pas assez bien montré à quel point le monde du livre est long et lent, et que souvent on a l'impression que tout va très vite quand on regarde sur les réseaux sociaux.
Alors
les
quand t'es dedans, ça va très vite.
Oui.
Je te confirme que quand tu es dedans, ça va très vite. Enfin, mais... oui, c'est long, mais pour mon exemple personnel, tu vois, pour avoir signé... Alors, pour HDS, j'ai trouvé ça long parce que ça a quand même duré plus de 2 ans et demi, mais tu vois... j'ai signé en avril, le roman il sort au premier trimestre là. Il y a eu du boulot, il y a eu, tu vois, Hachette te tient très régulièrement au courant, donc t'es pas laissé seul dans ton coin, mais tu vois, il se passe tellement de choses qu'au final je me dis waouh, en fait ça sort déjà dans X temps, tu vois. Désolée, je peux pas vous le dire.
Bon, on est quand même très content pour toi en tout cas.
Merci. Mais là, tu vois, une fois que t'es dedans et que le moteur il est enclenché, par contre, tu te dis oh là là, mais en fait c'est bientôt, mais comment je vais gérer mon emploi du temps? Mais ça va pas être possible. Donc effectivement, c'est très très lent, mais une fois que ça a démarré et que t'es dedans, t'as intérêt. Si t'as un peu d'ambition et que tu veux bosser sur plus d'un texte, enfin que tu as pour projet d'éditer au final plus d'un texte. Là, ça devient très... Enfin, faut être organisé et ça va très, très vite. Au final, tu te dis, ah, mais ok, c'est déjà là. Ah, ok, je suis déjà à cette étape. Ah, ok, il faut déjà que je fasse ça et que je rende ça pour telle date. Donc, je pense que ça dépend vraiment où on en est. Puis après aussi, chacun perçoit le temps à sa manière, forcément.
Ouais. Bah, c'est qui tout double, parce que pour toi, ça, t'as l'impression aussi que ça va très vite. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas encore publié de roman ou qui n'a pas encore écrit de roman,
oui.
La norme n'est pas d'écrire un roman en 3 mois, par exemple.
Non, on est d'accord.
Donc, forcément, quand on commence à parler de 1 an d'écriture, puis il faut soumettre et après il faut attendre 1 an ou 2 une réponse après avoir soumis.
Oui.
Je suis d'accord. Vraiment plus de temps.
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis bien une fois que t'es dedans.
Oui, c'est ça.
Parce qu'avant, effectivement, quand tu vois les délais, je me rappelle quand j'étais ado et que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'édition. Je dis ado au lycée, hein, donc il y a une dizaine d'années à peu près. Une fois, j'avais regardé les délais qu'il y avait sur les maisons d'édition et je me souviens, il y en a une qui disait « il faut compter une réponse sous 3 mois ». Et moi, à 17 ans, je m'étais dit « 3 mois ? Mais c'est super long !»
Oh la vache. T'es pas prête.
Alors qu'aujourd'hui, je veux dire...
Pour moi, c'est court.
Pour HDS, j'ai attendu 4 mois, ce qui était quand même très honnête. Hein. La moyenne, c'est 6 mois si on te répond, de manière générale. Et après, pour attendre la publication, c'est encore pire. Mais si à l'époque, on m'avait dit... J'avais rencontré un auteur, je ne sais pas si vous connaissez, que c'est Jean-Claude Mourleva. Et il était venu faire une intervention dans mon collège et il nous avait expliqué que du moment qu'il terminait un livre et où il sortait, il fallait compter à peu près un an et demi. Et là, je pense qu'à cette intervention-là, je devais avoir 14-15 ans, j'écrivais déjà. Et je m'étais dit, 1 an ? Mais c'est super long, 1 an ! Enfin, jamais ! Alors qu'aujourd'hui, tu dis, ouais, va bien falloir 1 an, en fait, pour se préparer.
Il y a beaucoup de travail à chaque étape.
C'est ça.
Donc tout ça, c'était... On s'est un petit peu égaré, mais c'est quand même super intéressant.
Bien sûr.
C'est vraiment en mode, oui, tout est long, tout tend un petit peu à ce miasme un peu de désespoir, en mode, sais que tu seras mal payé. En plus, les gens, t'as des maisons d'édition qui répondent sous 1 an et qui l'assument sur leur site, réponse d'ici 1 an. Enfin, tout ça crée donc cette espèce de pessimisme, je pense, et donc on est plus prêt ou prête à accepter ce qu'on nous donne en vérité. Donc c'est un petit peu ce qui... Je dirais pas que c'est totalement ce qui m'est arrivé avec La Cour des Ombres, parce que j'ai quand même tenu à avoir le directeur au téléphone pour négocier mon contrat, et ça déjà.
Bien.
Ça, quand on est primo-auteur ou autrice, c'est pas rien.
Oui,
bon,
je confirme.
J'ai eu que des noms à chaque point que je voulais négocier. Mais
t'as essayé.
Je suis fière quand même d'avoir eu le culot d'essayer. Et il faut avoir ce culot-là. Il faut poser des questions sur son contrat. Il faut le négocier si on considère qu'il y a des choses qui sont ahurissantes ou quoi. Donc voilà. Courage, d'ailleurs, si vous êtes là-dedans. Et n'hésitez pas. Finalement, il ne faut pas donner le plein pouvoir à la maison d'édition. Il ne faut pas hésiter soi-même à se donner un petit peu plus de poids dans la balance. Courage à nous.
Et donc, tu as signé le contrat, j'imagine. Tu as fait le travail éditorial avec la maison d'édition. Ça s'est plutôt bien passé. T'as pas eu de soucis particuliers?
Le travail éditorial a été top.
Très bien.
Donc ça m'a vraiment fait du bien. Parce que ça a été un gros chantier, ce roman. C'est un roman qui mélange quand même 2 thèmes qui sont hyper denses. L'histoire de France et la mythologie.
Oui.
Donc on est vraiment sur 2 thèmes très pointus qui m'ont demandé énormément de travail. Il y a eu un moment où j'ai cru que je finirais jamais ce roman. Quelque part, heureusement que je l'avais signé parce que du coup, ça me mettait un petit peu la carotte devant le nez. Donc comme ça, j'ai pu le terminer. D'ailleurs, j'ai terminé en 9 mois, donc je me suis amusée à comparer ça à un bébé. Et une fois que j'ai eu terminé, moi, ma première écriture avec ma première alpha lecture... et bêta lecture, et que j'ai pu commencer le travail éditorial avec la maison d'édition, à ce moment-là, ça s'est très bien passé. Moi, j'étais hyper optimiste. J'ai eu l'impression que je commençais quelque chose. Qu'il y avait un parcours qui s'ouvrait pour moi.
D'accord.
Dans le monde de l'édition.
Mm-hmm.
Pareil, avec du recul, ça me semble pas déconnant d'avoir pensé ça à l'époque.
Non, pas du tout.
Première publication, heureusement qu'on est optimiste et enthousiaste.
Oui, vaut mieux.
Donc à ce moment-là, pour ça s'est bien passé. C'est après que ça a commencé à...
Ok, donc comment les choses ont-elles dégénéré ?
Au moment de la communication, déjà.
D'accord.
Donc déjà, le livre a été publié en 2022, donc on est en période compliquée avec la crise du papier, le Covid, etc. Faut pas oublier que le contexte a été difficile déjà de base à ce moment-là.
Juste une question pour mettre un peu dans le contexte. C'était une maison d'édition qui avait quel type de distribution ? Tu signais en numérique, en papier ?
C'était du papier.
Et on demande comment ça se passait ?
C'était distribution large, c'est un des meilleurs, notre diffuseur était assez bon là-dessus, on avait
D'accord.
une distribution en librairie, petite
okay.
ou grande, enfin vraiment, il y a eu, sur ça, à la base, c'est une maison d'édition qui est plutôt tournée sur tout ce qui est poésie, littérature blanche, mais là ils ouvraient pour la première fois une collection sur l'imaginaire,
ouais.
sur le fantastique, la SFFF, et donc on avait normalement une bonne diffusion, mais comme c'était les premiers romans de leur nouvelle collection, et on n'était pas sûr qu'on allait avoir une aussi bonne diffusion, mais en tout cas c'était du papier et c'était disponible partout.
Oui, la promesse était, il y avait quand même une belle promesse quoi.
C'est ça. Donc, j'ai pas signé non plus dans un truc où en me disant ça va être complètement pourri, mais je signe quand même. Non, D'accord. à la base, la promesse était bonne. Même si la rémunération était plutôt cata. Mais la promesse était bonne. Et au niveau de ça a commencé à se compliquer au moment de la publication et des premiers mois de communication.
D'accord.
Au début, ça se passait bien, et au fur et à mesure du temps, la communication, elle s'est pas seulement amoindrie, elle est devenue, le peu qu'il y avait était vraiment de mauvaise qualité.
Et c'était spécifiquement pour toi, ou les autres romans de la maison d'édition aussi,
Ah,
oui. ça a commencé à être compliqué.
Ah, il faut qu'on en parle de ça.
D'accord.
Ne t'en fais pas, on okay. va en parler. À l'époque, j'étais toute seule et je connaissais pas les autres auteurs.
D'accord.
Mais je voyais déjà que la communication, ça commençait à être de la mauvaise qualité parce que, par exemple, on m'envoyait faire des interviews, mais je sentais bien qu'on ne disait pas tout aux journalistes qui allaient m'interviewer et qu'ils découvraient de quoi on parlait vraiment au moment où moi, j'étais en interview avec eux.
D'accord.
Donc, les moments de malaise étaient là.
Oui, j'imagine, oui.
Donc déjà, ça a commencé à être compliqué. Moi, j'avais de moins en moins de communication avec la maison d'édition également. Lorsque j'essayais de leur faire savoir que ça faisait 3 fois quand même qu'un journaliste me refusait une interview sur le moment de l'interview, c'était un peu difficile
ouais,
à encaisser.
Ouais, c'est limite, ouais.
Donc déjà, l'enthousiasme des débuts commence à se prendre une petite patate. Mais à côté de ça, le lectorat était là. J'avais quand même une bonne... Enfin, j'arrivais... Le livre était suffisamment unique et intéressant pour rayonner, même si la communication n'était pas au beau fixe. Donc malgré tout, j'avais quand même de bons retours de lecture, le lectorat s'intéressait, etc. Donc mi figue, mi raisin. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus du tout eu de communication avec la maison d'édition. Et c'est là que vraiment, ça s'est compliqué.
D'accord.
J'envoyais des mails qui restaient sans réponse. Jusqu'au jour où j'ai envoyé des mails où j'ai eu comme réponse automatique que la boîte mail n'était plus attribuée.
D'accord.
Peu importe la personne à qui j'écrivais, hein, éditeur, éditrice,
D'accord.
Okay. communicant.
Comme si on avait coupé le compte de toute la société, quoi.
Donc là, ça a commencé à être un petit peu plus angoissant. Sachant que moi, comme j'avais dit, j'ai aimé les corrections éditoriales, les éditrices avec qui j'avais travaillé, ça s'était super bien passé. Je comprenais pas trop pourquoi ça se passait comme ça d'un coup. Et donc j'ai commencé un petit peu à mener mon enquête et c'est là que j'ai découvert des dizaines d'auteurs et d'autrices de la maison d'édition qui s'étaient regroupés et qui se disaient tous « Qu'est-ce qui se passe ?» Donc en fait il y a eu je pense que c'est assez normal aussi et assez humain, c'est que lorsque tu te sens un peu lésé, notamment dans le monde de l'édition qui est où on a des rêves, des ambitions, on finit par se retrouver, et donc là c'est un peu ce qui s'est passé. Je suis tombée sur un groupe d'auteurs et d'autrices, on était une centaine. Certaines personnes étaient là depuis 2 ans, d'autres, tout comme moi, venaient d'arriver fraîchement sur le groupe. Et donc, on commençait un petit peu tous à se raconter nos déboires avec cette maison d'édition. Et on s'est rendu compte que pour tout le monde, la communication était coupée. Et même plus que ça, que la communication n'était pas coupée, que c'était plus grave que ça, dans le sens où, en fait, on a appris qu'il y avait eu des démissions, il y avait eu des licenciements, il y avait eu des grèves à l'intérieur même de la maison d'édition, et que nous n'avions été prévenus de rien. En décembre 2022, si je dis pas de bêtises, il y a un article qui a été publié par le média Livre Hebdo,
ouais.
Qui s'appelle « Payez vos autrices ». En fait, déjà en fin 2022, les médias commençaient à s'intéresser au fait que les auteurs et autrices de la maison d'édition n'étaient pas rémunérés.
De celle-ci spécifique, de la tienne spécifiquement.
Oui.
D'accord.
C'était un article sur notre maison d'édition. Et que dans cet article, on a appris, et c'est là où j'en reviens au fait qu'il n'y avait plus de communication, c'est qu'on a appris que les éditrices n'étaient plus rémunérées.
Ok.
Donc, vague de départ, mais nous, personne ne nous a prévenus. Donc, on s'est rendu compte sur le groupe où on était des dizaines d'auteurs qu'il y avait des gens qui devaient rendre des projets avec une date butoir qui était dépassée, mais qui n'avaient même plus de contact dans la maison d'édition pour rendre leur projet.
Ah oui, effectivement, c'est allé très loin. C'est pas...
C'est allé très,
et
très
du
loin.
Coup, surtout si vous étiez beaucoup d'auteurs, c'est pas comme les toutes petites maisons d'édition qui, malheureusement, sont obligées de mettre la clé sous la porte parce que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Enfin, voilà, j'ai déjà des amis à qui on a restitué leurs droits parce que la maison d'édition a regret dû fermer ses portes, souvent pour des problèmes, malheureusement, de trésorerie. Mais voilà, c'était des petites ME où il n'y avait pas non plus énormément d'auteurs ou d'autrices. Hein. Ça restait quand même des toutes petites structures. Alors que là, de ce que je comprends, on est quand même sur une grosse structure.
On est sur une maison d'édition moyenne au moins, hein, parce qu'il y avait plusieurs éditrices, plusieurs personnes qui travaillaient dans le pôle communication. Moi, j'appelle pas ça une petite maison d'édition.
Non, effectivement, parce qu'en général, une petite maison d'édition, tu as une ou deux éditeurs-éditrices, ceux qui sont souvent les fondateurs de la maison d'édition. Et en général, ils gèrent leur com, ils gèrent tout. Donc effectivement, si déjà tu as plusieurs pôles, enfin que tu as un pôle édito, un pôle com marketing, un pôle qui va gérer de la distrib et tous ces éléments-là, déjà effectivement tu passes sur une autre envergure. Et puis pour que la presse s'y intéresse, c'est que forcément il y a un petit peu d'envergure, quoi.
Oui, là, ça a été un peu la douche froide. Ça faisait partie aussi des choses qui, moi, m'avaient rendu enthousiaste au moment de la signature, c'est que je croyais vraiment en cette maison d'édition. Donc, quand tu apprends que même les éditrices font grève pour recevoir leur salaire, c'est un peu salé, quoi. Tu sais pas... Puis on n'a plus de communication, on ne sait plus à qui écrire, vu que tout le monde est parti ou s'est fait virer. Enfin, il y a eu un moment où, vraiment, c'était la panique totale.
Bien sûr.
Le livre continuait à se vendre. Et puis voilà, la suite, on ne savait pas.
Alors, j'ai regardé, ton livre, il en reste un sur Amazon.
Je crois que depuis aujourd'hui, il n'en reste même plus.
Ah bah voilà, oui, parce que je crois que j'ai regardé hier soir.
J'expliquerai un petit peu comment j'en suis arrivée là, mais effectivement, on a décommercialisé, j'ai tout fait.
Bah, il faut... Pour
décommercialiser mon livre. Ça, pour moi, déjà, c'était ahurissant qu'il n'y ait pas eu de communication.
Ouais, au moins auprès des auteurs et des autrices, que tu fasses pas une communication en grande pompe à tous tes lecteurs. Bon, effectivement, t'as pas forcément envie de dire on est en train de mettre la clé sous la porte, enfin voilà, où tu fais passer ça dans une com un peu, voilà, mais tes auteurs, d'un autre côté, t'es bien obligé de les informer. Au moment que tu sais que t'as atteint le point de non-retour, de toute façon, forcément qu'ils vont devoir récupérer leurs droits, forcément qu'ils vont, enfin, donc j'estime que, moi, de mon point de vue, tu dois informer tes auteurs et tes autrices que la collaboration va devoir s'arrêter prochainement pour X ou Y raison, quoi.
Il y avait un manque de mauvaise foi, de clairvoyance et de... je sais pas de quoi, mais il y avait des manques. Hein. Ah, ça, il y en avait, parce que pour en arriver à ce point-là, il y a eu un moment où on a réussi à choper le contact du directeur, parce qu'à la fin, il fallait quand même avoir...
Forcément.
Et encore une fois, il y avait des gens qui devaient rendre des textes on n'est même pas venu les chercher non plus. Je me demande à ce moment-là ce qui se passait dans la maison d'édition pour se dire, tiens, on a signé tel ou tel roman, ils sont jamais arrivés dans nos boîtes aux lettres, comment ça se fait?
Ben, s'il y avait personne pour laisser les réceptionner, forcément.
Exactement. Vraiment, mais une situation lunaire. Je comprends pas encore aujourd'hui comment ça a pu se passer comme ça. Nous, étant regroupés, donc un groupe au moins d'une centaine d'auteurs. Hein, donc,
ah oui, quand même.
Ah oui, on en est là.
Oui, oui.
On commence à se demander s'il n'y a pas moyen qu'on se défende aussi, parce que vu qu'on comprend que c'est la merde, on comprend bien aussi qu'on ne va jamais être payé.
Oui.
Il y avait des auteurs qui étaient sur le groupe, qui étaient là depuis un an ou deux et qui attendaient déjà 2 ans de rémunération.
D'accord.
Ce que moi, je ne savais pas au moment où j'ai signé, évidemment. Parce que c'est aussi très tabou, tout ça. Les gens sur les réseaux sociaux, par crainte, et c'est normal de se faire boycotter ensuite dans le milieu, ne vont pas dire « Oui, alors là, ça fait 2 ans que j'attends d'être payée par ma maison d'édition. Ça choque personne. Ça va, tout le monde va bien. » Donc, comme les gens ne communiquent pas, on ne sait pas non plus où on met les pieds à chaque fois. Parce que si tout le monde se tait... Donc c'est pour ça aussi que pour moi c'était important de participer à ce podcast, parce que écoutez, si vous êtes tombé aussi dans un ragoût aussi puant que celui-ci, ben vous y êtes pour rien. C'est juste qu'il y a tellement de non-dits dans ce milieu aussi, c'est compliqué.
Ouais, malheureusement. Et donc comment vous avez formé ce groupe d'une centaine de personnes pour essayer de vous défendre et de au moins savoir ce qui se passait. Donc après, quelles ont été les étapes, qu'est-ce qu'on a fini par vous répondre, et après toi comment tu as réussi à avancer, récupérer tes droits, comment ça s'est passé, enfin voilà, quelles ont été les étapes qui ont suivi?
On a d'abord essayé de faire pression à la personne concernée par ce problème, mais sans réponse, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus laisser de message vocal tant sa boîte vocale était pleine, on ne pouvait plus envoyer de mail tant sa boîte mail était pleine.
D'accord.
donc c'est devenu vraiment très compliqué. On a contacté un avocat pour en savoir un petit peu plus, notamment sur « Est-il possible en France de faire une action groupée ?» Eh ben non.
Ah bon ?
Non, la class action n'existe pas en France, contrairement aux États-Unis par exemple. Oui. On a bien essayé, hein, on avait contacté un avocat à plusieurs, on avait fait un zoom pour pouvoir poser nos questions et tout. Et en fait, c'est pas possible. Il fallait qu'ils prennent un auteur par un auteur, parce que c'était vraiment, ils devaient gérer chaque cas posément. Et par exemple, même un auteur qui avait plusieurs livres de publiés, c'était un livre par un livre.
Waouh.
Donc, encore plus de boulot pour nous, encore plus de pétrin.
Oui.
Donc, à ce moment-là, l'avocat nous expliquait un petit peu les marches à suivre pour récupérer nos droits. Je vous en parlais un petit peu. Mais il faut savoir qu'un avocat, comme tout le monde, normalement, les auteurs apparemment non, mais normalement, on est rémunérés, ça coûte quand même de l'argent. Sachant que nous, on savait bien qu'on n'allait certainement pas avoir d'argent.
Oui, voilà. Il faut pouvoir payer l'avocat, il faut pouvoir... C'est quand même des frais d'engager une action, quoi, ça c'est sûr.
C'est une perte, tout simplement, parce que si tu reçois pas ta paie à la fin,
tu
payes plus d'avocats que tu ne gagnes...
C'est ça. Bon.
Donc il y a certains qui ont pris quand même le parti de faire appel à cet avocat pour commencer des actions, notamment des lettres de mise en demeure. Mais l'avocat a eu exactement... Moi, par exemple, qui n'ai pas fait appel à cet avocat parce que j'avais pas les fonds, il a reçu exactement la même ignorance que moi.
D'accord.
Donc, comme quoi, même un avocat, un juriste, à un moment donné, quand en face, il y a une si mauvaise foi, ils peuvent pas faire de choses miraculeuses.
Oui, ça, c'est sûr.
Donc, dans l'idée, si par exemple, vous êtes dans le cas d'une publication où à N+1, vous n'avez toujours pas reçu de rémunération, il faut savoir que l'année où vous publiez votre livre, vous n'allez pas recevoir d'argent mois par mois, c'est pas un salaire comme on peut s'y attendre. À la fin de l'année, il va y avoir une reddition des comptes faite par la maison d'édition, où ils vont calculer le nombre de livres qui a été vendu, etc., vos pourcentages, combien on est censé vous payer. Ça, c'est à la fin.
Ce qu'on appelle nos droits d'auteur.
Voilà, c'est ça. Nos droits d'auteur, c'est notre salaire. Ça se passe fin de l'année, en cours. Et
alors, ça dépend plus ou moins des maisons d'édition, parce que moi, je sais que pour moi, c'est mars et septembre.
Oui, il y en a qui font ça en x2.
Ouais.
C'est une très bonne chose, d'ailleurs.
Oui, ça te permet de gérer, enfin, gérer un peu mieux tes finances. Oui, ça peut permettre. Donc, ça dépend quand même un petit peu des maisons d'édition. Oui. Enfin, voilà, c'est pas... C'est... Oui, ça dépend quand même. Par contre, c'est pas forcément à date anniversaire de votre signature. Hein. C'est quand même en année... C'est... Tout le monde va être payé en même temps dans la maison d'édition en général. C'est ça. Donc, moi, je sais qu'en théorie, c'est tout le monde en mars et en septembre. C'est pas... Voilà, HDS, moi, est sorti au mois d'octobre. J'aurai pas ma réédition de compte en octobre l'année suivante. Là, je vais en avoir une partie en mars et une partie en septembre.
C'est ça. Donc, soit votre maison d'édition, elle est dans ton cas où c'est deux fois par an, c'est une très bonne chose. Soit la plupart du temps, c'est à l'ancienne, c'est une fois par an. Ce qui participe aussi un petit peu au côté précaire de l'auteur et de l'autrice. Hein, mais bon, soit. Oui. Donc, c'est qu'une fois par an. Donc, nous, c'était fin d'année réédition des comptes. Et en fait, après ça, dans le droit français, l'éditeur a 6 mois après la réédition des comptes pour vous payer vos droits d'auteur, donc votre salaire.
Ce qui lui laisse de la marge quand même.
Ce qui lui laisse de la marge. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Si jamais, à ce moment-là, vous n'avez toujours pas reçu vos droits d'auteur, vous n'avez pas énormément de moyens d'action, malheureusement. Dans le droit français, tout va aussi très lentement, et donc vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain « tu ne m'as pas payé, je me casse », ce n'est pas possible. La première chose à faire, c'est d'envoyer une lettre de mise en demeure, en courrier recommandé, où vous écrivez à votre éditeur pour lui dire « bonjour, suivant le droit français », là, vous me devez une rémunération et vous me devez même une réédition des comptes. Donc, la réédition des comptes, n'oublions pas que c'est pour nous dire exactement combien de livres on a vendus, à quelle date, etc. Vous me devez des chiffres et vous me devez de l'argent. Faites-le en recommandé absolument parce que vous avez besoin d'une preuve comme quoi vous l'avez envoyé. Parce que dans mon cas, par exemple, quand j'ai envoyé ma lettre de mise en demeure, je n'ai jamais reçu de réponse, évidemment, du directeur, ça aurait été trop beau. Même pire que ça, on me l'a renvoyé parce qu'il n'est jamais allé chercher le pli.
D'accord.
Quand je dis qu'on est dans l'ignorance totale, c'est qu'on est dans l'ignorance totale. Absolument. Moi, je ne vous raconte pas l'état dans lequel on est à ce moment-là. Hein.
Oui, j'imagine que mentalement, ça doit être très, très compliqué à gérer, ouais.
Donc, là où l'importance du courrier recommandé, c'est que vous avez une date d'envoi, une date de retour si le courrier n'a pas été ouvert par la personne à qui on expédiait le courrier. Et à compter de ce moment-là, on considère que normalement, la personne a pris connaissance du contenu de votre courrier et à 3 mois, encore une fois, c'est long, il a 3 mois à ce moment-là, à partir de ce moment-là, pour, on va dire, remettre les choses en ordre.
D'accord.
Donc à partir de la date où vous avez envoyé votre recommandé, il a 3 mois pour vous payer, si c'est ça que vous demandiez. Et à ce moment-là, vous ne pouvez toujours pas juste vous casser et vous dire c'est fini. Vous devez réenvoyer un recommandé pour dire « Voilà, je vous ai envoyé un recommandé il y a 3 mois, vous n'avez toujours pas répondu, selon la loi, c'est fini. Et pour cette fois, pour de bon.
» Je récupère mes droits.
Je récupère mes droits. Mais donc tout ça, là, ça peut prendre un an. Enfin, vu qu'on attend...
Oui, du coup, parce que si tu vas de 3 mois en 3 mois, effectivement, c'est très long.
T'attends la réédition des comptes. Après la réédition des comptes, il a un laps de temps pour te payer. Après ce laps de temps, tu envoies un recommandé. Après ce recommandé, t'attends encore. Quand je vous disais... Enfin, c'est pour ça que moi aussi, je trouve que dans l'édition, tout est long, mais c'est la même chose pour le droit français. Donc quand en plus, c'est du droit français qui touche au monde de l'édition, on a l'impression juste de patauger. Pendant ce temps-là, moi, mon livre se vend, ça fait de l'argent à l'éditeur, et je sais que je vais jamais y toucher... je vais jamais toucher un centime. Donc mentalement...
Oui, c'est la frustration est énorme, la colère, voilà, ça c'est sûr que...
Là ça devient, oui, c'est de la frustration, de la colère. Il y a un moment où on ne souhaite plus qu'une chose, c'est la rupture de ce contrat d'édition.
Oui.
Parce qu'on est tellement en colère et on se sent tellement indigné de la façon dont on est traité, alors qu'encore une fois, le livre fait son bout de chemin et il est apprécié. Donc oui. ça fait encore plus monter cette...
Oui, parce qu'en parallèle, ton livre continuait d'être vendu et continuait d'y avoir des retours, des chroniques, des avis, des choses comme ça.
Pendant tout ce temps-là, oui.
D'accord.
Au moment où j'envoie mon deuxième courrier recommandé pour dire « Bon bah voilà, ça fait un moment que vous me prenez pour une débile, on va arrêter là les frais. » je me rends compte que le livre est toujours en vente partout.
D'accord.
Parce que, évidemment, une personne qui n'a jamais été chercher mes courriers recommandés ne
oui,
peut pas savoir
courant,
que j'ai récupéré mes
sûr.
Droits. Ça en vient à cette situation-là. Donc, je lui envoie un mail pour lui préciser que j'ai bien récupéré mes droits. Je lui fais un scan de mes différents courriers que j'ai envoyés en recommandé avec preuve. Et je lui dis, bah voilà, là, ça fait quand même un moment. J'ai mes preuves, je récupère mes droits. Merci, au revoir. Sauf que comme mes livres continuent à être vendus et que moi, il est hors de question que je continue à donner de l'argent dans cette situation-là, nouvelle étape, contacter le diffuseur.
Waouh.
En fait, c'est à nous de tout faire.
Oui, oui, je vois ça.
C'est-à-dire que même au moment où on se dit « ça y est, on peut souffler, la guerre est finie », non, c'est pas fini. Il y avait d'autres auteurs qui... Enfin, il y en avait qui n'osaient pas envoyer de lettres recommandées parce qu'eux, ils voulaient que leur livre vive coûte que coûte. Il y en avait qui voulaient absolument se faire payer de la maison d'édition et qui donc engageaient avocat sur avocat pour intenter tout ce qu'ils pouvaient pour récupérer leur argent.
Oui.
Mais même pas tant pour gagner de l'argent, parce qu'à force de payer des avocats, de toute façon...
Oui, c'est ça, la balance, elle n'est pas du tout équilibrée, quoi.
Non. Là, c'était juste une histoire de justice. Il y a des gens,
d'accord,
ils voulaient faire justice, ils étaient énervés, voilà. Il y avait vraiment plusieurs cas
bien sûr,
dans ce regroupement, ce qui est normal, hein, quand t'es une centaine d'auteurs.
Évidemment.
Et encore, ça, c'est seulement ceux qu'on a retrouvés, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont dû être dans cette situation... mais qui n'ont pas réussi à trouver les autres auteurs, les autres autrices,
oui,
et qui se sont retrouvés tout seuls. Vient le moment en fouillant sur le net, on a fini par trouver que la maison d'édition était en liquidation judiciaire.
D'accord.
Pareil, là-dessus, on n'avait eu aucune information. Après tout, vu qu'on n'en avait pas eu pendant un an...
Oui, ça n'allait pas changer.
Donc, à partir de là, de toute façon, on n'était pas très étonnés parce que... Parce que vu comment ça se passait, on s'y attendait. Malgré tout, on ne sait pas si justice va être faite, parce que si la maison d'édition n'est pas solvable, de toute façon, c'est pas comme s'ils allaient pouvoir nous payer. Parce que quand il y a une procédure judiciaire qui se met en place, normalement, on essaye quand même de récupérer l'argent qui reste à l'entreprise pour payer les dettes de l'entreprise. Mais nous, on n'était pas du tout prioritaire. Il y avait des milliers d'euros qui étaient en attente chez des éditeurs, chez des imprimeurs, pardon, chez des livreurs, enfin... des milliers d'euros, des sommes vraiment astronomiques parfois.
Ouais.
Hein. Nous, on a halluciné. Donc, on savait qu'on ne serait pas payé à ce moment-là non plus. Donc là, on est en 2024. Moi, j'ai récupéré mes droits début 2023.
D'accord.
Et je sais que cette liquidation judiciaire qui continue son bout de chemin, je sais que je ne pourrai jamais récupérer un centime de tout ce qui s'est passé.
D'accord.
De toutes les ventes que j'ai faites. Je pourrais pas me dégager de salaire parce que de toute façon l'entreprise n'était plus solvable.
D'accord, donc tout ce qui te reste c'est ta notoriété entre guillemets quoi. C'est les avis qui sont déjà existants ou...
D'accord. J'ai essayé de garder la force de continuer malgré tout parce que justement la seule chose qui me restait, comme tu en parles, c'était la petite notoriété qui avait découlé de cette publication. Je me suis dit bon bah c'est le moment de continuer à y croire, à essayer de publier. En fait,
oui,
comme je disais au tout début du podcast, en signant, moi, j'ai cru qu'un chemin s'ouvrait à moi.
Oui.
Donc, à partir de là, je me suis considérée comme autrice. Je savais que je voulais continuer à écrire. Donc, je voulais pas trop lâcher le morceau.
Bien
donc,
sûr.
En 2023, quand j'ai récupéré mes droits, il y a d'abord eu une période de soulagement. Parce que je me suis dit, ça y est, on se fait plus de l'argent sur mon dos impunément.
Oui.
J'ai réécrit un texte après ça, et après ça, il y a eu le déni, en fait, que je... Enfin, j'étais dans le déni de ce que je ressentais vraiment, et quand c'est tombé, je me suis sentie vraiment sans force, sans conviction, sans foi, parce que je me suis vraiment rendu compte de ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte que tout le travail que j'avais mis dans mon livre après cette rupture d'édition, cette rupture de contrat d'édition... dans mon nouveau livre, dans mon nouveau texte, il fallait que je réengage à nouveau tout pour être publié.
Oui. Bah
donc,
oui.
À nouveau, 6 mois, un an d'attente, de machin. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai plus du tout la force. Surtout si c'est pour arriver à ce genre de conclusion un an après. Donc l'année 2023, après ça, elle a été très lente et vraiment dans mon activité artistique, ça a été un peu le désert, quoi.
Ouais, et comment t'as fait, toi, pour... Alors, je ne sais pas si on peut dire surmonter, parce que je ne sais même pas si c'est surmonté à l'heure actuelle, parce que je pense que c'est quand même, surtout quand c'est une première expérience, c'est quand même, je pense, un traumatisme. Et puis, tu as envie de croire en ton rêve et on te le balance bien improprement. Mais du coup, toi, comment tu as fait et quels seraient peut-être tes conseils, voilà, pour, en tant que juste toi-même, surmonter un petit peu cette étape, voilà, quel chemin mental tu as fait, je ne sais pas, peut-être des exercices ou de la réflexion. Est-ce que tu as été suivi? Est-ce que c'est tes proches qui t'ont aidé? Comment tu te remets, on va dire, de ça?
Alors, la vérité, et ça va être peut-être sujet à polémique, peut-être faire débat, mais ce qui m'a aidée, c'est à un moment donné, c'est d'oublier que j'avais publié un livre.
D'accord. C'est ton droit, c'est ta manière. Enfin, vraiment, je...
Bah, ça fait un petit peu qu'on n'a pas jugé les bras, quoi.
Bah, si c'est pour un temps et pour pouvoir après justement reconstruire ta passion, non, enfin c'est mon avis, et après aussi j'estime que c'est ta manière de faire, et personne n'a à juger le fait que tu te dises bah je préfère tout occulter, ou je préfère dire que ça n'a jamais existé parce que ça va m'aider à rebondir. Si c'est pour qu'au final ça t'aide à aller mieux sur l'avenir et à reprendre confiance, pour moi, il n'y a pas de sujet à débat ou de dire bah vas-y, j'ai baissé les bras. En même temps, après avoir vécu ça, qui n'aurait pas pendant un temps envie de baisser les bras, quoi?
Je sais pas, peut-être que c'est moi à ce moment-là, vu que je me sentais, je me sentais plus fragile à ce moment-là. Mm-hmm. Tu sais, il y a toujours un petit peu, pareil, on va parler des réseaux sociaux, mais ce côté très... je sais plus comment on appelle ça, mais on pousse les gens à être positifs et à toujours s'acharner pour réussir leurs rêves, qu'il faut jamais abandonner, que vous allez y arriver, que la roue tourne, ou je sais pas, tout ce qu'on peut inventer à ce sujet, qui est pas forcément faux, hein. Évidemment, je l'espère aussi que la roue tourne, avec grand plaisir, hein. Moi je prends. Mais on va dire que sur le moment, quand t'es vraiment au plus bas, et que tu entends et que tu lis très souvent qu'il faut se battre, qu'un jour tu vas y arriver, ben quand toi tu te dis, ben en fait je vais juste oublier, tu sens bien que t'es à contre-courant, quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends ce sentiment. Après, c'est sûr qu'il faut toujours replacer, je pense, au cas par cas et dans la situation. C'est sûr qu'à quelqu'un qui n'a pas vécu de traumatisme et qui a juste un peu le moral en berne parce qu'il est en phase de syndrome de la page blanche, bah t'as plus envie de lui dire allez, secoue-toi, crois-y, remets-toi à écrire, et si tu veux y arriver, de toute façon il y a que comme ça que tu vas y arriver. Enfin, il y a que
et c'est vrai aussi,
en continuant, en persévérant, que tu vas y arriver. Après, c'est sûr que si tu t'es mangé un mur énorme comme toi, tu te l'es pris, c'est sûr que c'est plus compliqué d'arriver, allez, secoue-toi, ça va repartir. Enfin non, il faut quand même prendre le temps de digérer ce qui vient de se passer. Et après, bah, si ça reste ton rêve, c'est sûr qu'au bout d'un moment, bah, faut se remettre en selle, quoi. Mais je pense que c'est vraiment au cas par cas, et aussi où t'en es dans un processus. Enfin voilà, effectivement, moi, des fois, sur les réseaux, il y a des personnes qui m'écrivent et qui me disent elles sont sur un premier roman, un premier jet, c'est la déprime complète parce que c'est un syndrome de la page blanche et qu'ils savent pas exactement où ils vont. Bah là, oui, forcément, je vais avoir tendance à secouer la personne et à lui dire, bah allez, écris ce qui te vient, fais ce que tu peux, mais sois positif, parce que si t'as envie que ça marche, il va forcément falloir que y a un moment, bah, tu termines ton livre, hein. Il n'y a pas 36 000 solutions, mais quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ce que toi tu as traversé, c'est normal qu'après t'es un peu, tu freines un peu des cas de fer et t'es un passage à vide. Enfin voilà, faut replacer aussi les choses dans leur contexte.
Ben, du coup, ce serait le conseil que je donnerais. Je pense que j'ai trop voulu m'accrocher pendant un temps au fait d'être autrice et d'avoir commencé un chemin justement dans l'écriture, d'avoir commencé un parcours professionnel, on va dire, dans l'écriture. Ça me restait trop en tête.
Ouais.
Et c'est du coup devenu une vraie déception parce que je faisais que de reculer avec cette fin de contrat d'édition, cette rupture, toute cette histoire que je me tapais dans le dos là. C'était vraiment la déception de... Bah, au début, tu vous prétendais juste à faire de l'auto-édition. Au final, tu as eu une moyenne maison d'édition qui t'a signé, qui te vendait du rêve, avec qui ça aurait pu être incroyable ce qui s'est passé. Un lectorat qui t'a suivi, donc toi, tu t'es dit, mais c'est génial en fait, j'écris bien, mm-hmm. mais c'est génial, je vends bien, mais c'est génial, ceci, cela.
Oui, oui, bah oui.
Je dirais pas que tu chopes le boulard, mais à un moment donné, tu te dis, bah en fait, je peux y croire.
Bah oui, c'est, oui, oui, non, mais c'est normal, hein, t'as envie d'y croire, hein, t'as envie d'être motivé, tu te nourris de ce qui t'arrive.
C'est ça.
C'est normal, puis il faut se nourrir de cette émulation, enfin, ça flatte ton ego, et on va pas se mentir que, bah oui, quand ça flatte ton ego, t'as envie d'aller plus loin, enfin, c'est humain, quoi.
C'était l'idée, sauf que le aller plus loin dans une situation où j'avais pas suffisamment percé pour qu'une maison d'édition me contacte en mode « Hey, nous, on peut repêcher ton bouquin parce qu'on a vu qu'il plaisait » ou ce genre de choses, que j'ai pas eu de contact non plus pour le nouveau texte que je venais de terminer. Là, je disais, j'ai 5 textes de prêt, j'en ai aucun de signé. C'est pas facile. Le monde de l'édition n'est pas facile quand t'as pas déjà commandé, quand t'es pas. Enfin, on disait tout à l'heure qu'une fois qu'on est dedans, ça va vite.
Oui.
Mais moi, j'ai été dedans, puis très vite plus dedans. Du coup, on m'a.
Oui, c'est vrai que t'as un peu fait marche arrière. Enfin, j'ai pas envie de dire ça. Je trouve ça péjoratif, mais c'est un peu l'idée.
C'est comme ça aussi que je l'ai ressenti, c'était que moi j'étais en mode aussi, je mets le pied dedans, donc maintenant je vais me donner à fond, c'est pour ça que j'ai écrit plusieurs projets, et j'étais vraiment optimiste et positive sur la suite, et puis finalement, ben, maintenant que j'ai plus de livres publiés, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis encore autrice?
Oui.
Est-ce que je vais pouvoir réussir à rééditer ce livre? Est-ce que je l'auto-édite? Est-ce que juste à un moment donné j'abandonne l'idée de publier parce que finalement jusqu'à maintenant ça m'a provoqué pas mal de mal-être?
Mm-hmm.
Est-ce que je continue? Est-ce que j'écrirai pas juste pour moi? Enfin, il y a eu toute une période de flottement et c'est là où je me suis dit ben juste je vais me laisser oublier. C'est ce qui est un petit peu arrivé pendant 6 mois en fin 2023. Là, je me suis reconcentrée, on va dire, sur ma vie matérielle,
mm-hmm.
sur ma vie personnelle, sur tout ce qu'il y a derrière l'écriture, au point même où des fois les gens me disaient alors la vie d'autrice, et j'avais un moment de lumière qui se faisait dans ma tête en mode oh, mais j'ai publié un livre, j'en suis arrivée là, hein. C'était vraiment le déni total, j'avais ouais. complètement fermé les portes, parce que sinon j'étais trop malheureuse.
Ouais.
Donc on va dire que c'est un peu comme ça que j'ai survécu pendant 6 mois, et maintenant que j'ai pris le temps, c'était l'année dernière, donc ouais. ça fait 1 an, mais voilà, je me dis, là on commence 2024, malgré tout, j'ai quand même toujours mes textes de prêt, dont un que je sais qui peut plaire, parce qu'il a déjà plu, et qui est déjà ouais. terminé, qui a déjà eu des corrections éditoriales et tout, auxquelles je crois. J'ai plus d'énergie, ou plus de volonté, ou plus de croire, enfin de foi, je ne sais pas, mais on va
ouais,
dire
et puis le temps fait peut-être son effet aussi.
Il y a ça, et... Ouais, le fait que ce soit la nouvelle année aussi, je pense que, je sais pas, je me dis, bon, allez, 2024 peut pas être aussi mauvaise que 2023 Donc, on va y croire, et j'en suis là aujourd'hui, et c'est pour
D'accord.
ça aussi que j'étais contente de pouvoir participer à ce podcast.
Bien sûr.
C'est un petit peu pour moi aussi une façon de... Voilà, je m'investis à nouveau dans le milieu et D'accord. dans le contexte.
Ok. Juste pour que ce soit bien clair, donc toi, aujourd'hui, par contre, avec cette maison d'édition, tu n'as plus aucun contact, tu ne cherches plus à en avoir, enfin, fini, bye-bye
Rien du tout.
D'accord.
Bah, de toute façon, ça faisait déjà plus d'un an oui. que j'avais plus de contact.
Oui, oui, ça n'a pas... C'est juste la suite logique. Mais voilà, en tout cas, maintenant, tu sais que c'est terminé avec eux et que vous n'avez plus, plus de contact. D'accord. Et pour ce qui concernerait l'édition, vis-à-vis de l'édition, on va dire, traditionnelle en ME, tu restes quand même frileuse. Tu as plutôt envie maintenant de t'orienter vers revenir à ce que tu voulais faire à la base, c'est-à-dire de l'auto-édition. Ou maintenant que tu as quand même connu, on va dire, le travail avec une maison d'édition, tu aurais quand même envie de retenter le coup avec une autre, de faire des soumissions. Juste comment tu te sens, toi, vis-à-vis, aujourd'hui, là, à l'instant T, janvier 2024, si tu devais... Enfin, quelles sont tes aspirations pour l'édition?
L'auto-édition, j'y ai pensé, notamment pour la Cour des Ombres, parce qu'après tout, le travail éditorial était déjà fait.
Oui.
Donc, j'aurais pu envisager, sans trop de travail, de relancer la machine en auto-édition. Mais je pense que j'en suis pas encore là, mentalement.
Ouais.
Je suis pas encore prête à ça. Par contre, j'aimerais à l'avenir, si j'arrive à nouveau à remettre un pied dans le monde de l'édition, J'aimerais être ce qu'on appelle auteur ou autrice hybride et tenter un jour l'auto-édition. Mais clairement, là, j'ai plus l'énergie de... Enfin, j'aimerais qu'enfin, il y ait une maison d'édition qui me soutienne un peu.
Ouais.
Parce que le soutien, j'en ai jamais eu de la part d'une maison d'édition. Enfin, à part au moment de la signature. Après ça, très vite, ça s'est effacé totalement pour La Cour des Ombres. Je me suis sentie très vite très seule. Et j'aimerais bien... avoir un livre où je me sens pas seule, où je sens que le livre, il est suivi par la maison d'édition et qu'on me drive un petit peu encore, que je gagne encore en expérience avec une maison d'édition. Parce que moi, j'ai trouvé, par exemple, les corrections édito pour La Cour des Ombres, je les ai trouvées très enrichissantes.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, vraiment, l'équipe éditoriale était top. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire tout ça. J'ai envie de retrouver ça, mais d'aller encore plus loin et de découvrir une communication qui marche bien.
Oui.
Et tout le travail qu'il y a derrière, après, avec une maison d'édition, qu'est-ce qu'on peut créer avec une maison d'édition ? Jusqu'où on peut aller ? Mm-hmm. J'aimerais beaucoup connaître ça avant de tenter l'auto-édition de mon côté et avoir ce côté hybride entre les deux.
D'accord, ok. Je comprends.
Mais voilà, j'ai peur, évidemment, quoi. Je suis un peu frileuse.
Je comprends aussi.
Je ne sais pas. Après, je ne peux pas totalement me prémunir... que ça recommence
Non, mais après, tu vois, t'as aussi beaucoup de... Je le dis pour toi, je pense que tu le sais, toi, aujourd'hui, mais je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent. Il y a beaucoup de forums, de Discord. Il y a le forum Jeunes Écrivains qui existe, oui. Où il y a plein d'auteurs et d'autrices qui relatent leurs expériences avec telle ou telle maison d'édition.
Je l'ai découvert trop tard.
Malheureusement. Et je me souviens que quand j'ai fait certaines soumissions de mes premiers romans, notamment de HDS à l'époque, hein, puisqu'après ça s'est passé différemment pour les autres bouquins, mais c'est vrai que quand je listais une maison d'édition ou après quand j'ai fait d'autres soumissions pour d'autres textes, j'avais tendance quand même à les vérifier, à les voir, voilà, et aussi des fois, ne pas hésiter à retourner vérifier, parce que tout peut être rose un jour et ça peut avoir évolué.
Ça change vite.
Donc, il y a le forum Jeunes Écrivains. Si vous avez des auteurs et des autrices qui sont dans une maison d'édition que vous visez, n'hésitez pas aussi à leur faire un petit DM Insta. Moi, je sais que cette semaine, il y a une personne qui m'a écrit pour me demander 2-3 questions précises sur Bookmark. Parce que, l'AME était dans sa liste, mais... avant d'envoyer, elle voulait quand même avoir un retour. Alors, forcément, moi, c'était assez positif. Enfin, c'est très positif, donc je l'ai vivement encouragée. Sur les discords d'écriture aussi, moi, sur le discord que j'ai, enfin, le discord des plumes doudou, typiquement, on a un channel dédié édition ou maison d'édition. Et les auteurs et les autrices, des fois, posent des questions sur telle ou telle ME. Alors, des fois, on a la réponse, des fois, on n'a pas la réponse. Mais on va pouvoir au moins orienter et conseiller un petit peu la personne. Enfin, moi, je sais que des fois, je vois passer des noms de maisons d'édition, même si elles sont relativement réglo, sur le global, suivant ce que va rechercher la personne, je vais lui dire aussi, qu'est-ce que t'attends de ta ME ? Parce que t'as des ME qui sont réglo, mais où c'est vraiment très, très professionnel. Tu as des maisons d'édition où ça va être plus... cocooning, entre guillemets, désolée, j'ai pas de terme, c'est mon vocabulaire qui me vient, ou familial. Enfin, aussi, suivant les convictions de l'auteur, ce qu'il recherche comme partenariat ou comme collaboration, enfin, aussi, on va pas forcément lui conseiller la même chose. S'il veut une grande, une petite ME, s'il y a des convictions environnementales. Enfin, par exemple, tu vois, aujourd'hui, il y a des maisons d'édition qui sont très engagées ou qui vont justement faire que de l'impression à la demande. Il n'y aura pas de grande distribution, mais justement, ce sera plus respectueux de l'environnement, sauf que forcément, tu auras un peu moins de visibilité, mais ça peut être plus près de tes convictions. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à vraiment vous renseigner en profondeur sur les maisons d'édition. Ne serait-ce que pour pas vous retrouver dans le cas de Marion, hein, pour commencer, voilà, être sûr que la maison d'édition, elle est réglo sur au moins toute la partie administrative, et ensuite aussi pour être sûr qu'elle vous convient en termes de manière de travailler, pour que vous ayez pas de déconvenues lors du travail édito ou parce que moi l'AME à laquelle je faisais référence au début du podcast quand je disais que j'avais eu un appel par rapport à HDS. Ils sont très réglo, j'en entends, enfin voilà, il y a des auteurs qui sont très contents parce qu'administrativement parlant, ils sont très réglo, il n'y a aucun souci. Mais par contre, on va dire que la liberté de l'auteur est un peu amoindrie. Enfin, moi, je me souviens que lors de l'appel, la dame voulait faire des modifs dans le roman. Et quand je lui avais dit, vous voulez changer quoi ? Elle m'a dit, je vous le dirai qu'une fois que vous aurez signé. Ah bah non. Enfin, Non.
Ah ouais.
Non, non,
ah ouais.
Tu vas me le dire avant. Donc voilà, alors il y a des personnes qui potentiellement sont OK avec ça. Moi, je ne l'étais pas, d'autres le seraient peut-être. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur toutes les questions que vous avez à poser sur la maison d'édition pour être sûr qu'aussi, au-delà de l'aspect, on va dire, administratif, elles vous conviennent tout simplement.
Meilleur conseil.
Merci.
J'ai rien à ajouter.
Dans ce cas-là, j'ai une dernière question pour toi pour se tourner vers l'avenir. Est-ce que tu veux nous parler de l'un de tes projets à venir, voilà, pour nous dire un petit peu, voilà, nous pitcher une histoire, nous donner envie de continuer de te suivre et de découvrir un prochain travail.
Oui, sur les 5 textes, il y en a notamment 2 que j'espère, enfin 3 si on comprend aussi La Cour des Ombres, que j'espère voir aboutir prochainement. Donc il y a La Cour des Ombres évidemment. Et j'aimerais aussi publier un manuel de vulgarisation littéraire, historique et mythologique sur une divinité du panthéon grec. Donc ça, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'était aussi un contrat que j'avais signé avec la maison d'édition qui a signé La Cour des Ombres pendant un temps.
D'accord.
Évidemment, vous vous doutez bien que j'ai récupéré mes droits.
On imagine.
Assez rapidement, avant même de leur envoyer le texte, parce que ça sentait pas bon depuis un petit moment. Mais oui. Donc pareil, ça a été aussi un petit peu une pilule à avaler, parce que c'était aussi un contrat que j'étais censée publier, sur lequel j'ai énormément travaillé, parce qu'encore une fois, c'est très historique, littéraire, archéologique et j'en passe, donc c'était un gros travail et ça n'a pas été publié non plus, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir pouvoir soumettre cette année 2024. Et après j'ai un autre roman que j'aimerais beaucoup voir publié qui traite aussi des saisons, donc j'ai pensé à toi.
Oh.
c'est forcément différent, mais je vais vous trouver le pitch. Alors, pour mon pitch, je me suis notée. Alistair fait un étrange rêve. Il y est question d'un magnifique ours blanc, du solstice d'hiver et d'un poignard. Le lendemain matin, il se réveille dans un manoir insolite. On attend quelque chose de lui, mais quoi ?
Yeah ! J'aime bien.
Donc, c'est
déjà, il y avait le solstice d'hiver, c'est bon.
Voilà. On est sur du solstice.
C'est bon,
on est sur de la magie, on est sur un manoir gothique, on est sur tout ça, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir aboutir en 2024, notamment parce que c'est aussi le livre que j'ai écrit après la rupture du contrat de La Cour des Ombres, donc c'était un peu le moment de la rage.
Oui.
Donc c'est le roman de la rage, on peut dire, mais que j'ai adoré écrire et à qui j'aimerais beaucoup qu'il se passe quelque chose. Donc voilà pour en parler un petit peu de mes futurs projets.
Ok, bah écoute, on te souhaite beaucoup de réussite dans ces projets-là.
C'est gentil.
Et puis, dans les prochains, et puis j'espère que surtout tu retrouveras toute la foi en l'écriture et en l'envie de publier, que ce soit d'une manière ou d'une autre, et que dans quelques années, on te croisera en dédicace et on oubliera toute cette page un peu compliquée
je me le souhaite.
De l'histoire.
C'est gentil, merci.
Je t'en prie. Écoute Marion, moi je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir partagé ton expérience avec nous, qui j'espère servira de gros warning aux primo-auteurs qui cherchent une ME et aussi aux ceux qui sont des fois dans des situations un peu compliquées avec leur ME et qui n'osent pas forcément agir. N'hésitez pas à agir, à vous tourner aussi vers la communauté littéraire, parce que vous n'êtes pas seul. En général, on finit souvent par découvrir qu'il y a plusieurs auteurs ou autrices concernés, ou des gens qui sont déjà passés par là et qui vont pouvoir vous donner des conseils, donc peut-être comme Marion aussi, totalement.
Oui, vous pouvez m'écrire.
Donc n'hésitez pas. Et j'espère que tout ça finira par s'arranger pour toi et pour tous ceux qui se retrouvent dans des situations un petit peu conflictuelles avec l'édition.
Merci de m'avoir reçue, en tout cas.
Je t'en prie, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Pour tous les autres, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et quelques étoiles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye !